OK, on va continuer notre étude, le survol du livre de Josué. Mm-hmm. On était rendu la semaine dernière au chapitre 5. Donc, c'est le chapitre qui parle de Gilgal qui est occupé. Donc, on pourrait dire que c'est l'émondage de la foi et qui consiste en un continuel dépouillement de la chair. Donc, on va regarder les 15 premiers versets de Josué 5. Et nous voici sur cette rive de la résurrection. Qui trouvons-nous? Pénible découverte. D'abord, les ennemis extérieurs qui ont reparu, mais courage, ils sont sans force, déjà vaincus par Christ à la croix. L'ennemi intérieur, la chair, est là également. N'a-t-elle pas été déclarée morte, ensevelie dans les profondeurs du Jourdain? Assurément, aux yeux de Dieu, c'est là sa place. Mais il faut que nous nous tenions nous-mêmes pour morts au péché. Ne lui reconnaissons aucun droit de se manifester. La circoncision correspond à ce jugement que nous avons apporté sur chaque réapparition de la chair en nous. Quand il est pratiqué, alors nous découvrons les ressources et les joies qui nous attendent sur ce rivage des lieux célestes. En premier lieu, le vieux blé du pays qui vient remplacer la manne, image d'un Christ glorifié dont le racheté se nourrit. Puis vient la Pâque. Elle est pour être célébrée sous les murs même de Jéricho. On lit dans « Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis » Psaume 23, verset 5. Enfin, voici l'ange promis par l'Éternel dès les premiers jours de l'Exode. Jésus est pour nous dans le ciel et dirigera nos combats si nous lui en laissons la direction. Maintenant, on passe au chapitre 6, qui est vraiment l'histoire de la chute de Jéricho, qu'on pourrait intituler « La foi triomphante ». Elle est triomphante lorsqu'elle opère selon les principes divins. Donc, dans les 14 premiers versets du chapitre 6 de Josué, « Comme un gardien redoutable veillant à l'entrée de Canaan, se dresse la puissante forteresse de Jéricho, barrant le chemin du peuple. Obstacle terrifiant. À quoi correspond-il pour nous? Quand le nouveau converti, passé depuis peu de la mort à la vie, s'apprête à vivre sa foi. Satan cherche aussitôt à l'effrayer. Il place devant lui de grosses difficultés. Un témoignage à rendre devant des camarades moqueurs, l'abandon d'une habitude, un aveu ou des excuses à faire à quelqu'un qu'on a offensé. Bien plus, dans certains pays, ceux qui se déclarent chrétiens ont à affronter de vraies persécutions. Comment faire face à ces réactions inévitables de l'ennemi? En laissant le Seigneur tout diriger à sa manière. À nous, il demande une pleine confiance en lui, du zèle, voyons-les s'élever de bonheur, un témoignage bien clair auquel correspondent les sept trompettes. Puis encore la persévérance, 7 jours et 7 fois le 7e jour. La patience doit avoir son œuvre parfaite. Et enfin, la condition principale, il faut réaliser la présence du Seigneur avec nous dans notre marche quotidienne. L'arche qui s'était tenue pour Israël dans le Jourdain est maintenant avec lui pour lui donner la victoire. Maintenant, les versets 15 à 27 du chapitre 6. Alors, elle devait paraître bien dérisoire et inoffensive aux habitants de Jéricho, la ronde de ces sonneurs de trompettes autour de leurs murailles. Avait-on jamais vu un siège entrepris de semblable façon? Les moqueries n'ont pas dû manquer. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. À côté des puissants moyens visibles dont l'homme se prévaut, la foi agit à sa manière invisible. Selon la promesse du Seigneur, si nous en avons comme un grain de moutarde, Dieu ôtera de notre chemin les obstacles les plus effrayants. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, comme on le lit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Mm. Faisons usage de cette arme invincible, la prière. S'il y a des Jéricho sur notre route, apprenons comme Israël à en faire le tour, avec le Seigneur, avec l'arche, en élevant nos voix vers Dieu. Quand son moment sera là, nous verrons tomber les murailles, comme celles-ci tombèrent le septième jour. Israël a reçu son instruction, entendue de tous. La ville sera anathème, maudite. Seul Rahab est épargné avec les siens en réponse à sa foi. Le cordon d'écarlate, facile à localiser, lors des 13 derniers jours, les 13 derniers tours de la ville, était à sa place. Maintenant, on va regarder un petit peu le chapitre 7. Donc, le chapitre 7, ça raconte l'histoire du péché d'Acan, qu'on pourrait intituler « La foi invalidée ». Donc, autrement dit, la foi a un problème parce que il y a quelqu'un qui a désobéi et ça a eu des graves conséquences. Josué, chapitre 7, versets 1 à 15. Après Jéricho, voilà Haï, une ville de petite apparence. Il semble vraiment facile d'en venir à bout, sans déranger tous les hommes de guerre. 3 000 suffiront. Contre toute attente, Israël est battu. C'est au tour du cœur du peuple de se fondre comme s'était fondu peu avant le cœur de ses ennemis, au chapitre 5. Josué, découragé, tombe sur sa face et se lamente. Mais l'Éternel l'invite à se lever et à comprendre la raison de sa défaite. Quelque chose n'est pas en ordre au milieu du peuple. L'anathème, autrement dit le péché, empêche Dieu de combattre en faveur des siens. Grande leçon pour chacun de nous. Notre conscience est comme le camp d'Israël. Une faute que nous cachons, que nous refusons de confesser aux hommes et à Dieu, nous prive de sa communion, sans laquelle un chrétien est battu d'avance. Chose plus grave encore, il s'agit du grand nom que nous portons, celui de Christ, qui sera déshonoré par notre défaillance. Que feras-tu pour ton grand nom? Est une prière intelligente. Celui qui parle ainsi se fait passer la gloire de Dieu avant ses propres intérêts. Aide-nous, ô Dieu, de notre salut. À cause de la gloire de ton nom, et délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom, demandera Asaph au psaume 79 au verset 9. Et la deuxième partie du chapitre 7, du verset 16 à 26. Pour le jugement comme pour le combat, Josué se lève de bonne heure. L'affaire doit être réglée sans retard. Quand Dieu a éclairé notre conscience, il ne faut pas laisser traîner les choses. On procède au tirage au sort et le filet se resserre autour du malheureux coupable. Enfin, le doigt de Dieu se dirige vers lui. Acan fut pris, comme on le lit au verset 18. Quoi de plus terrible que d'être démasqué ainsi par Dieu lui-même? Lors du dernier souper avec ses disciples, Jésus leur désigna le traître en tendant à Judas le morceau après l'avoir trempé, comme on le dit dans Jean chapitre 13, verset 26. Mon fils, dit Josué, donne gloire à l'Éternel. La gloire de Dieu exige toujours la vérité entière. Alors, Acan raconte sa triste histoire. C'est celle de toutes les convoitises, telles que Jacques nous en montre l'engrenage funeste dans le chapitre 1 de Jacques, versets 14 et 15. Les yeux, puis le cœur, enfin les mains pour saisir et cacher. J'ai péché, avoue Acan, et j'ai vu telle et telle chose, je les ai convoitées et je les ai prises, et voilà. Le beau manteau de Shinar qui venait de Babylone, l'argent, l'or, étaient bien cachés dans la tente où Dieu les avait vus. Mais n'oublions pas la conclusion. Le péché, étant consommé, produit la mort. pénible de voir, le méchant doit être ôté du milieu de l'assemblée d'Israël. Et on peut comparer ce passage-là avec 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. On passe maintenant au chapitre 8. Donc, le chapitre 8, après l'erreur qu'il y a eu de pas faire confiance à Dieu, maintenant la prise de la ville. Donc, c'est la foi qui est revalidée. Le péché est confessé, le péché est jugé. Donc, les 13 premiers versets de Josué. Alors, le péché caché était la principale raison de la sévère défaite essuyée par Israël. Mais celle-ci avait aussi un autre motif. La victoire de Jéricho avait manifestement donné au peuple confiance en lui-même. Chose d'autant plus surprenante qu'il s'agissait alors d'un miracle. Quelle était la part d'Israël dans la destruction de la terrible forteresse? Mais que de fois nous ressemblons à ce peuple. Quand le Seigneur nous a délivrés d'une situation difficile, au lieu de nous appuyer davantage sur lui, pour l'épreuve suivante, nous cessons d'éprouver le besoin de son secours. Et c'est la chute. D'autre part, notre cœur est ainsi fait que, si pour des grandes difficultés, nous sommes prêts à nous confier en Dieu, pour les petites, nous estimons souvent pouvoir nous en tirer tout seuls. L'histoire de la prise d'Aï nous apprend que nous en avons besoin, un besoin continuel du Seigneur. Que de peine il va falloir maintenant pour remporter la victoire. Au lieu des 3000 soldats prévus, il en faut 10 fois plus avec une manœuvre compliquée. La restauration est toujours une opération longue et pénible. À Jéricho, le peuple devait apprendre à connaître la puissance de Dieu. À Haï, il était nécessaire qu'il fasse l'expérience de sa propre faiblesse. Donc, on continue dans le chapitre 8, versets 14 à 23. « Que feras-tu pour ton grand nom ?» avait demandé Josué. « Maintenant que le péché est ôté et qu'Israël s'attend à lui, Dieu en donna la victoire. » Et l'artisan de cette victoire, celui dont le nom revient continuellement dans notre récit, c'est Josué. Ici, de nouveau une figure de Christ, conduisant les siens dans les combats. Par son javelot étendu vers la ville sur l'ordre de l'Éternel, Josué montre qui dirige la manœuvre et rappelle qu'il existe un plan d'ensemble, une stratégie dont lui seul a connaissance. Eh bien, voilà ce que Jésus est pour nous. C'est lui qui connaît le rôle que doit remplir chaque soldat, lui qui place chacun son poste, lui enfin qui donne le signal de chaque mouvement. En regardant à Christ comme le combattant à l'étendard de son chef, nous saurons ce que nous avons à faire, nous prendrons courage. Et puis, sachons-le, nous ne sommes pas seuls à livrer bataille. Nous avons des frères et des sœurs qui soutiennent les mêmes luttes. Toutefois, ce ne sont pas, comme au temps de Josué, des combats publics glorieux et spectaculaires. Nos victoires en général, nous les remporterons à genoux, dans notre chambre. Le Seigneur seul en sera témoin. Et on continue dans le chapitre 8, versets 24 à 35. Haï est conquise, puis brûlée, ses habitants massacrés, son roi pendu, son butin préservé au profit du peuple selon la parole que l'Éternel avait commandée. Ayant payé chèrement le prix de la propre volonté, Josué et Israël se conforment cette fois strictement aux instructions divines. Deutéronome 21, verset 22-23, défendait de laisser le cadavre d'un pendu sur le bois pendant la nuit. Et Josué obéit aussi, au verset 29, preuve qu'il considère déjà la terre comme à eux. Appliquons-nous à justifier le plus possible notre comportement par l'Écriture. Quelle force aurait notre témoignage si nous pouvions répondre à toute question concernant notre conduite, notre tenue, c'est que le Seigneur me le demande dans sa parole. Contemplons Jésus sur la croix. À l'ultime instant, de sa vie d'homme obéissant, il dit encore, afin que l'Écriture fût accomplie. J'ai soif, comme on le lit dans Jean 19, verset 28. La scène qui suit, versets 30 à 35, répond elle aussi aux instructions du Deutéronome, chapitre 11, verset 29, et chapitre 27, verset 11. Hommes, femmes, enfants, tout le peuple est réuni, y compris l'étranger. Donc Rahab s'y trouve probablement, au lieu désigné pour écouter la loi. Et le centre de ce rassemblement, c'est l'arche sainte, type de Christ. L'adoration et la joie s'expriment par les holocaustes et les sacrifices offerts. Belle image d'une réunion d'assemblée. Maintenant, on a le chapitre 9. Dans le chapitre 9, on a la ruse des Gabaonites. Donc, on pourrait dire que c'est la foi compromise et leur erreur, ça a été de ne pas consulter l'Éternel. Josué, chapitre 9, versets 1 à 16. Tandis que le peuple de Dieu puise sa force dans la dépendance du Seigneur, le monde recherche la sienne dans l'association. Son proverbe, l'union fait la force, est à la base de groupements de tout genre, y compris religieux. Voyez ici tous les peuples ennemis se rassembler pour faire la guerre à Josué et à Israël de commun accord. Quand il s'agit de combattre la vérité, des hommes naturellement en inimitié les uns contre les autres savent se retrouver sur un même terrain. Hérode et Pilate, réconciliés, se sont assemblés contre Jésus avec les nations et les peuples d'Israël, comme on peut le lire dans Luc 23, 12 et Actes 4, 27. Pendant que la conjuration se forme, absorbant l'attention d'Israël, l'ennemi va surprendre celui-ci par une habile supercherie. Lorsque Satan ne parvient pas à ses fins par la force, il essaie d'autres artifices. Les avances, les flatteries sont souvent le piège dans lequel nous tombons quand nous avons négligé de consulter le Seigneur. L'ennemi, derrière ses agents, voit d'un bon œil une coopération avec les enfants de Dieu et saura se faire aimable pour les tromper sur ses véritables intentions. Soyons sur nos gardes, car une telle alliance est d'abord une désobéissance, ensuite la porte est ouverte à beaucoup d'infidélité. Donc les derniers versets du chapitre 9 de Josué. Précédemment devant Haï, le peuple s'était estimé assez fort. En présence des Gabaonites, il s'était cru assez sage. Il n'a pas éprouvé le besoin de consulter l'Éternel. Quelle confusion lorsque, trop tard, la vérité est découverte. Il faudra dorénavant supporter ces Canadiens et nous les retrouverons plus tard, fâcheusement liés à l'histoire d'Israël, comme on pourrait le lire dans le livre de 2 Samuel au chapitre 21. Les Gabaonites expliquent pourquoi ils ont agi de la sorte. Et nous nous demandons peut-être ce qu'ils auraient pu faire d'autre, sinon se laisser exterminer par les Israélites. Eh bien, l'exemple de Rahab prouve qu'il était encore temps de venir se mettre avec foi et en reconnaissant leur caractère d'ennemi sous la protection du Dieu d'Israël dont ils avaient entendu la renommée. Mais les gens de ce monde ressemblent à ces Gabaonites. Ils espèrent se soustraire au jugement en se liant extérieurement, en liant extérieurement leur sort à celui du peuple de Dieu. Ils voudraient échapper à la colère qui vient, obtenir une assurance pour la mort qu'ils redoutent, mais sans confesser leur état, sans se mettre au bénéfice de la pure grâce de Dieu. Aussi, à la différence de Rahab, qui devint femme de Salmon, prince de Juda, comme on le lit dans Matthieu chapitre 1, verset 5, les Gabaonites demeurent dans l'esclavage. Ils sont devenus des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Des chapitres 10 à 12, on a vraiment la déroute des ennemis. Donc, on pourrait dire que c'est la foi victorieuse par le moyen de l'obéissance. On va regarder le chapitre 10, les versets 1 à 11. Alors, de nouveaux ennemis surgissent. Ils ont pour chef le roi de Jérusalem, Adoni-Tzedek, qui veut dire Seigneur de justice. Quelle différence entre ce personnage et un de ses prédécesseurs, Melchisédek, qui veut dire roi de justice, roi de Salem, comme on peut le lire dans Genèse 14, versets 18 à 20. Ce dernier avait béni Abraham, puis béni le Dieu très haut qui avait livré les ennemis entre les mains du patriarche. Adoni-Tzedek se place au contraire à la tête des ennemis du peuple d'Israël, du peuple d'Abraham. Il réunit ses alliés contre Gabaon, qui, de son côté, fait appel à son nouvel allié. Fâcheuse conséquence de l'infidélité du chapitre 9. Ayant l'Éternel avec lui, le peuple avait-il besoin d'une autre alliance? Elle ne fait qu'accroître le danger. Mais Dieu va donner, malgré cela, la victoire. Israël part de Gilgal, lieu de la circoncision, figure du jugement de la chair. L'Épître aux Colossiens nous en fait comprendre la portée spirituelle. Mort et ressuscité avec le Christ, nous avons aussi à mortifier nos membres. Donc dans le chapitre 2, verset 20, chapitre 3, verset 1, 5. À cela correspond le retour à Gilgal, grand secret de la victoire. Pour triompher, le combattant de la foi doit d'abord réaliser qu'il est sans force. Il est ainsi préparé à laisser Dieu seul agir. L'Éternel combat lui-même des cieux en faveur de son peuple Israël. Les versets, dans le chapitre 10, les versets 12 à 27. À la prière de Josué, l'Éternel arrête le soleil et la lune durant un jour entier. Il montre ainsi à ses peuples païens qui est le Dieu qui combat pour Israël, en même temps qu'il montre aux siens jusqu'où il peut aller en réponse à leur prière, comme on peut le lire aussi dans Marc, chapitre 9, verset 23. Mais n'est-ce pas un miracle bien plus grand encore que Dieu prolonge depuis 2000 ans le jour de sa grâce? Et au lieu que ce soit comme ici pour permettre le jugement et la vengeance, son but actuel est la conversion des pécheurs. Il use de patience envers le monde, peut-être vous, si jamais quelqu'un écoute qui n'a pas reçu la grâce de Dieu, et il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, comme on le lit dans Matthieu, chapitre 5, verset 45. Chacun trouve cela naturel, mais pensons souvent en voyant paraître un nouveau jour à cette longue patience de Dieu. Le soleil ne se couchant pas, les ennemis fuient la lumière et cherchent les ténèbres, essayant de se cacher. Mais la victoire est remportée et les cinq rois sont tirés de la caverne. Approchez-vous, dit Josué à ses capitaines, ne craignez point. Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. C'était le signe du triomphe, anticipation du moment proche où le Dieu de paix brisera Satan sous nos pieds. On a les versets 28 à 43 du chapitre 10. Donc, elles tombent l'une après l'autre, ces villes formidables, grandes et murées jusqu'aux cieux. Leurs rois, leurs géants, leurs habitants sont frappés irrésistiblement par Josué et tout Israël. Remarquons la répétition continuelle de cette dernière expression. Elle évoque l'union indissoluble de Christ et des siens. Celle-ci implique que nos ennemis sont aussi et d'abord ceux du Seigneur. Nul ne peut s'attaquer à moi sans avoir affaire à mon chef. En le laissant passer le premier, je ne puis qu'être vainqueur. Au contraire, sans lui, j'ai perdu la bataille. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce de me priver du contact ou de la communion avec mon Seigneur. Il sait que, séparé de lui, nous ne pouvons rien faire, même si de notre côté, nous l'oublions souvent. Quelle page triomphante s'inscrit ici? Puisse-t-il y avoir dans l'histoire de ma vie chrétienne une liste semblable de victoires remportées secrètement avec le Seigneur? Victoire pour la vérité, victoire pour la pureté, victoire sur telle ou telle tentation, Jeune homme, jeune fille, votre âge est tout spécialement celui des combats. Faites-vous partie de ceux à qui l'apôtre Jean peut écrire « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. » Alors, on va faire le 11 et on va arrêter après. Donc, le chapitre 11, versets 1 à 11, à Gabaon, au chapitre 10, la confédération des rois du Sud a été taillée en pièces. À présent, le nord du pays se rassemble autour de Jabin, roi de Hatsor, un peuple innombrable, pour faire la guerre contre Israël. Tous ces rois-là se donnèrent rendez-vous. Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son roi, annonce le psaume 2 en parlant des temps à venir. Que dit l'Éternel à Josué? Ne les crains point. Je les livrerai tous tués devant Israël. Et la victoire est suivie d'une destruction qui n'épargne personne. Nous avons de la peine à comprendre ces terribles jugements. Ne sommes-nous pas les disciples d'un maître qui recommande « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » Ne sommes-nous pas les enfants d'un père qui exhorte « Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Mais s'il est encore, s'il y a un temps pour la grâce, c'est le nôtre, il y aura un temps de même pour la colère. Elle atteindra tous ceux qui auront refusé la grâce. Le jugement des Cananéens, après des siècles de la patience de Dieu, est une illustration solennelle. Et on termine les versets 12 à 23 et on va arrêter après ça. Donc les ennemis qu'Israël vient de combattre et de vaincre représentent ceux qui font la guerre aux chrétiens. Autrement dit, Satan et ses anges. Notre lutte est contre les principautés, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, comme on le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Beaucoup de personnes s'imaginent que le diable et les démons sont actuellement en enfer. Mais la Bible nous montre Satan encore dans le ciel ou se promenant sur la terre pour nuire aux hommes, comme on le lit dans Job chapitre 1, verset 6 et 7. Sans doute, si nous sommes croyants, l'ennemi ne peut nous ravir notre salut, comme on le lit dans Jean, chapitre 10, verset 28. Par contre, il s'efforce, en nous faisant la guerre, de nous empêcher de jouir de nos bénédictions célestes. Il essaie de nous ravir le terrain que des victoires précédentes nous ont permis d'occuper. C'est pourquoi le même chapitre 6 des Éphésiens nous exhorte non seulement à combattre et à tout surmonter, mais ensuite à tenir ferme. La parole nous rappelle aussi, dans de tels moments, que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Elle affirme que ni principauté ni puissance ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme on peut le lire dans Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. Alors, on va terminer ici aujourd'hui, on termine la semaine prochaine.
Amen.